D'abord, dans l'Ancien Testament, le premier de ces passages se trouve dans le livre de Job, au chapitre 4. Vous connaissez les circonstances. Job a été accablé d'épreuves et de souffrances. Il vient d'exprimer sa détresse et sa plainte. Quelques amis sont venus pour le consoler et au début, ils sont restés silencieux auprès de lui. Et puis, le premier de ses amis prend la parole et s'adresse à Job. Chapitre 4. Alors Eliphaz prit la parole et dit « Peut-on risquer un mot ? Tu es si abattu. Mais qui peut garder le silence ? Tu as instruit beaucoup de gens et tu as fortifié ceux qui baissaient les bras. Tes propos relevaient celui qui trébuchait. Et tu raffermissais ceux dont les genoux fléchissaient. Maintenant qu'il s'agit de toi, tu es découragé? Maintenant que cela te touche, te voilà tout désemparé? Ta foi en Dieu n'est-elle pas la source de ton assurance? Et ton intégrité n'est-elle pas ton espérance? Deuxième lecture, début du psaume 119. Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. Ils ne commettent pas le mal. Ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Que j'ai assez de fermeté pour observer tes ordonnances. Alors je n'aurai pas de honte lorsque je considérerai tous tes commandements. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur quand j'aurai étudié tes justes lois. J'observerai fidèlement tes ordonnances. Ne m'abandonne pas complètement. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Nous allons maintenant dans le Nouveau Testament pour y faire une troisième lecture, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, à partir du verset 11. C'est Jésus-Christ qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. De cette manière, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Une nouvelle lecture dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 5, à partir du verset 12. L'auteur dit à ceux auxquels il s'adresse qu'il y a des choses dans ce qu'il a à dire qui sont difficiles à comprendre, à expliquer. Mais il dit parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Voilà ce qu'il leur dit. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide. Par la pratique, ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Et puis enfin, une dernière lecture pour le moment. Nous revenons dans la lettre aux Éphésiens et nous lisons au chapitre 6, à partir du verset 10. Pour conclure, dit l'apôtre à la fin de cette lettre, pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requête sous la conduite de l'Esprit. Le sujet sur lequel j'aimerais réfléchir avec vous ce matin, c'est le sujet de l'affermissement. L'affermissement, un processus inscrit dans l'évolution normale de tout être vivant. Qu'il s'agisse de l'enfant qui apprend à marcher, ou du convalescent qui remet les pieds sur le sol. Évidemment, suivant les circonstances, suivant les temps de la vie, suivant l'âge, on a plus ou moins conscience de devoir être affermi dans sa marche. Quand on est jeune, en bonne santé, on ne se pose pas la question de savoir si notre marche est affermie. Quand on commence à prendre un peu de l'âge, on sait qu'il faut faire un peu plus attention pour voir où on met les pieds. Et si on ne fait pas attention, on sait qu'on a tendance à moins lever les pieds, par exemple, pour monter les escaliers ou d'autres choses de ce genre. Je suis sûr qu'il y en a un certain nombre qui me comprennent. Affermir sa marche, avoir besoin d'affermir sa marche. Un processus essentiel aussi dans la marche chrétienne. Un des objectifs principaux de l'apôtre Paul à l'égard des chrétiens et des églises dans l'accomplissement de sa mission. Sa mission qui consiste à annoncer l'Évangile et qui consiste à fortifier les chrétiens et les églises. J'étais une nouvelle fois surpris en abordant ce sujet de voir le nombre considérable de textes qui parlent de cet élément, de l'affermissement, du fait de se fortifier à tous égards, et pas seulement chez l'apôtre Paul, mais aussi chez l'auteur de la lettre aux Hébreux, chez l'apôtre Pierre, un sujet vraiment central. La première citation que je voudrais méditer, le premier regard sur ce sujet, nous vient de cette parole du psaume qui est une prière. Seigneur, veuille affermir mes pas par ta parole afin qu'aucun péché ne puisse m'asservir. C'est une de ces paroles que nous trouvons abondamment dans ce psaume 119 dont nous avons lu le début. Prière du croyant pour une marche chrétienne assurée. Veuille affermir mes pas dans ta parole ou par ta parole. La parole de Dieu est première. Première dans la création, première dans la nouvelle création. L'appel de Dieu, la révélation du salut. Et cette parole qui nous a appelés, qui nous a régénérés, est une parole qui continue à nous conduire et à nous fortifier. Elle est lampe à nos pieds, lumière sur notre sentier. Seigneur, veuille affermir mes pas dans ta parole et par ta parole, dans ma connaissance de ta parole et par cette connaissance même. Veuille, Seigneur, me donner une démarche chrétienne de plus en plus assurée. Progrès dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Progrès dans la pratique, dans l'expérience, dans l'apprentissage, dans le discernement du bien et du mal. Vous avez vu cette parole à contre-courant qui a dû heurter probablement, mais ils en avaient besoin, les destinataires de la lettre aux Hébreux, lorsque cet auteur leur dit « Vous avez connu depuis longtemps l'Évangile, vous avez donc marché avec le Seigneur depuis longtemps, eh bien cette marche aurait dû normalement vous conduire à une marche de plus en plus assurée, à être affermi dans la foi, dans la confiance, dans la sérénité, dans la paix. Eh bien, il se trouve que, dans ce cas, pour ces chrétiens auxquels s'adresse l'auteur, eh bien, il n'en est pas ainsi et ils ne peuvent pas manger la nourriture nécessaire pour se consolider vraiment. Ils ont encore besoin de lait. Ils ont encore besoin de choses légères, digestes. On nous dit aujourd'hui qu'il faut manger léger, mais je ne reprendrai pas ce slogan sur le plan de la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle allégée me semble pas du tout appropriée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a déjà un bon petit moment, nous avons reçu ici notre frère Paul Racoute, ancien directeur du séminaire baptiste de Madagascar et responsable de l'enseignement pour un bon nombre de pays de l'Afrique francophone. Et ici même, il nous a dit son étonnement et sa crainte de voir combien même dans la formation des responsables d'église, il y avait une superficialité, une légèreté, un manque de consistance dans l'enseignement qui leur était donné, qui donnait à notre frère de grands soucis, de grands sujets, de préoccupations. Il est intéressant de relire ce texte de la lettre aux Hébreux. Du lait ou de la nourriture solide? Le texte nous dit « Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole ». Intéressant cette expression. Aucune expérience de la parole. C'est qu'ici, la parole, c'est quelque chose de très consistant en soi-même, en lui-même. La parole, ce n'est pas simplement le texte qu'on lit. Parce que sinon, à ce moment-là, on ne parlerait pas d'expérience de la parole. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est un bébé. Retenons, chers amis, Parmi les choses que j'aimerais partager avec vous ce matin, retenons cette expression, l'expérience de la parole. Et ce n'est pas simplement un exercice de mémoire, hein. Ce n'est pas simplement pouvoir dire dans une circonstance, ah oui, la parole dit, c'est important. Mais ce n'est pas le tout de cette expression, l'expérience de la parole. C'est ce vers quoi la parole m'a conduit dans ma pratique, pas seulement dans ma pensée, mais dans ma façon d'être, dans ma façon de faire. Et cette parole doit m'amener jusque-là. L'expérience de la parole, qui enseigne ce qu'est la vie juste. Les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide par la pratique. Ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Il s'agit donc bien de discernement pour savoir et de discernement et de force pour faire. Par la parole de Dieu, il nous est donc possible d'avoir une conduite de plus en plus assurée. Évidemment, cette force nous vient de Dieu. C'est par Dieu que nous pourrons progresser dans une marche de plus en plus assurée. C'est le deuxième point que j'aimerais développer. C'est Dieu qui fortifie. Il peut le faire, il veut le faire et il le fait. Le psalmiste dit « L'Éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Jésus a prié pour l'affermissement de l'apôtre Pierre, en lui révélant en même temps le fait que Satan les a réclamés pour les passer au crible. Satan vous a réclamé pour vous passer au crible. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Vous aurez des tribulations, nous aurons des tribulations dans le monde, nous dit Jésus. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est par des paroles de cette nature et par l'action du Seigneur qui les accompagne que se produit en nous l'affermissement de la foi, de la confiance en Dieu. C'est l'objectif pour tout chrétien. C'est aussi les vœux et les prières constants de l'apôtre Paul pour les chrétiens, ses frères. Dans la lettre aux Romains, « Béni soit Dieu, il a le pouvoir de vous rendre fort dans la foi. » C'est des paroles de cette nature qui peuvent nous ramener vers le Seigneur au moment où nous nous sentons affaiblis. Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, tu as le pouvoir de me rendre plus fort dans la foi. Dans la lettre aux Corinthiens, Jésus-Christ vous rendra fort jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc là aussi une indication de durée. Ce n'est pas simplement une action ponctuelle au moment où nous faiblissons, mais c'est une action qui se renouvelle pour que, affermis de mieux en mieux, de plus en plus, nous arrivions à la stature du Christ, à être irréprochable pour le jour du Seigneur. Car Dieu est fidèle, dit le texte, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans la lettre aux Éphésiens, « Je demande à Dieu, dit toujours l'apôtre Paul, qu'il vous accorde d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. » Là aussi, c'est une expression importante. Fortifié par l'esprit de Dieu dans notre être intérieur. C'est une expression globale, mais qui parle pour dire que ce n'est pas simplement de l'énergie visible, extérieure, la force, habituellement, ce qui se produit lorsqu'on se muscle, on devient costaud. Mais là, il est question d'être fortifié dans notre être intérieur. Encore une expression que je vous encourage à retenir et à méditer. Fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Quelle parole! Quelle dimension inimaginable que celle que l'apôtre met devant nos yeux. Et à la fin de cette parole si forte et si belle, l'apôtre va dans la louange et dans l'adoration à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Je ne vais pas vous faire répéter Amen comme si j'ai tout à l'heure, mais il avait bien raison. Une fois de temps en temps, c'est bien. Allez, on le dit encore. Amen. Promesse et encouragement. Dans la lettre de Pierre aussi. Dieu, l'auteur de toute grâce, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Et dans la lettre aux Thessaloniciens, que le Seigneur affermisse vos cœurs pour que vous soyez saints et irréprochables devant Dieu. Je voudrais maintenant aborder un nouvel aspect en décrivant le fait que ce processus d'affermissement est un processus qui se réalise dans l'accompagnement. Dans la prophétie d'Ésaïe, nous trouvons cette parole qui est reprise aussi dans le Nouveau Testament. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux chancelants. À ceux qui sont troublés, dites, prenez courage, n'ayez aucune crainte, votre Dieu va venir. Nous avons évoqué il y a un instant cette parole de Jésus à Pierre, lorsqu'il lui a dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Mais le texte continue. Et Jésus prolonge cette parole pour Pierre. Et il ajoute donc, « Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis, fortifie tes frères. » D'abord, Jésus lui annonce qu'il a prié pour son affermissement à lui. Et ensuite, il lui dit, « Lorsque, après ton moment de vide et de creux, tu seras revenu à moi, affermi tes frères. » L'entraide de celui qui a été fortifié et qui peut à son tour fortifier. Tenu par la main, guidé, soutenu, récupéré, rattrapé par un ami solide et fort pour celui qui est affaibli, secoué et ébranlé. Nous avons au tout début lu un passage dans le livre de Job. Et nous avons là à la fois un exemple, un témoignage et un contre-exemple. Le témoignage, c'est ce qu'Éliphaz dit de Job. Le témoignage positif d'Éliphaz sur l'action de Job. Tu as fortifié ceux qui baissaient les bras. Tes propos relevaient celui qui trébuchait. Et tu raffermissais ceux dont les genoux fléchissaient. Quel beau témoignage! Quelle belle parole! J'aimerais qu'on puisse dire cela de chacun de nous. Quelle belle parole! Mais Éliphaz ajoute autre chose qui n'est pas du tout dans la même veine. Et il ajoute, « Maintenant qu'il s'agit de toi, tu es découragé !» Mais enfin, Job, c'est pas possible après avoir encouragé les autres d'être découragé toi-même. Et c'est là où Il n'est pas du tout dans le réel. Éliphaz. Éliphaz, là, n'est pas un ami qui relève. Au contraire. Maintenant qu'il s'agit de toi, tu es découragé. Maintenant que cela te touche, te voilà tout désemparé. Et il ose ajouter, je me retiens un peu, mais j'avais à me dire, il est gonflé quand même celui-là de dire ça. Hein. Il ajoute, ta foi en Dieu n'est-elle pas la source de ton assurance? Et ton intégrité n'est-elle pas ton espérance? Il met en cause sa foi et son intégrité, au moment où l'autre est complètement dans le creux. Et il a dit, tout le chapitre précédent, c'est un cri de détresse et de désespoir de Job, accablé par le malheur. Ta foi en Dieu n'est-elle pas la source de ton assurance? Eh bien, que ce contre-exemple nous aide à ne pas nous précipiter à porter des jugements sur ceux qui traversent des moments d'affaiblissement. Chacun, à un moment ou à un autre, peut connaître un temps plus ou moins long d'affaiblissement, même s'il a affermi les autres. Et vous savez comment Job a reçu ces paroles d'Éliphaz. Nous le trouvons au chapitre 6. Job répond à cet ami si mal inspiré et si peu fraternel. Pourquoi espérerais-je quand je n'ai plus de force? À quoi bon vivre encore vu la fin qui m'attend? Du roc ai-je la résistance? Mon corps est-il de bronze? Et puiserai-je encore en moi des ressources pour m'en sortir? Toute aide m'est ôtée. L'homme désespéré a droit de la compassion de la part d'un ami. Oui, même s'il cessait de révérer le Tout-Puissant, mes amis m'ont trahi comme un torrent, comme un de ces cours d'eau dont le lit est à sec. Et un peu plus loin, il dit « En quoi ai-je failli? Faites-le-moi comprendre. Ah, combien seraient efficaces des discours équitables, mais à quoi servent vos critiques? Avez-vous l'intention de blâmer de simples paroles, des mots jetés au vent par un désespéré, ou dans une autre traduction, ou de tenir pour rien les discours d'un désespéré? » Oui, Éliphaz, le contre-exemple de celui qui doit s'approcher de l'ami en état de faiblesse pour le relever et pour l'encourager. Rappelons-nous, chacun, à un moment ou à un autre, peut connaître un temps plus ou moins long d'affaiblissement, même s'il a affermi les autres. D'où prudence dans nos jugements par rapport à celui qui est dans ce type de creux. Aider, affermir dans la foi, consolider dans l'espérance, conforter la résistance dans l'épreuve, voilà une forme importante de l'amour du prochain. Affermir les autres après avoir été affermi soi-même. Recevoir et donner la force de Dieu. Dans la lettre aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul dit « Nous avons chargé Timothée de vous affermir et de vous encourager dans votre foi, afin que personne ne vienne à vaciller dans les détresses par lesquelles vous passez. » Et finalement, cette belle parole de l'apôtre Paul encore aux chrétiens de Rome, parole que nous avons citée plusieurs fois ces derniers temps, au début de sa lettre aux Romains, il dit « J'ai le vif désir d'aller vous voir pour vous apporter quelques bienfaits spirituels en vue d'affermir votre foi, ou mieux, pour que nous nous encouragions mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est commune. » Pour que nous nous encouragions mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est commune. J'aborde la dernière partie de ce que je voulais partager avec vous ce matin. La réponse de notre responsabilité personnelle et le fait que nous sommes, nous aussi, chacun de nous, l'objet d'une exhortation Fortifiez-vous, fortifie-toi et prends courage. Demeurez donc ferme, Paul aux Thessaloniciens. Frères, et attachez-vous aux enseignements que nous vous avons transmis. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père nous ont témoigné tant d'amour et par grâce, nous ont donné une source éternelle de réconfort et une bonne espérance, qu'ils vous remplissent de courage et vous accordent la force de pratiquer toujours le bien en parole et en acte. Nous retrouvons tout à fait ce que nous disions au début, que par la parole de Dieu, on est fortifié pas seulement dans sa connaissance, mais dans sa pratique. La force de pratiquer toujours le bien en acte et en parole. Soyez vigilants aux Corinthiens. Demeurez fermes dans la foi. Faites preuve de courage. Soyez forts. Soyez des hommes, dit l'expression. Que l'amour inspire toujours vos actions. Et Paul encore à Timothée. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et l'auteur des Hébreux, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux qui chancèlent, les vôtres et ceux des autres. Tout cela nous dit de saisir par la foi toute cette richesse que Dieu nous donne dans sa parole, dans sa communion, dans la communion fraternelle aussi, toutes les grâces que Dieu nous accorde pour nous affermir et nous fortifier. Je me permets encore un dernier mot avant la conclusion. La seule chose que je voudrais ajouter ici, c'est qu'il peut nous arriver de traverser des moments de faiblesse, je l'ai dit plusieurs fois, mais ce qu'il faut éviter, c'est de se complaire dans la faiblesse et de faire de la faiblesse ou de la fragilité permanente une excuse, ou du moins croit-on que c'est une excuse, pour ne pas faire ce que nous devrions faire, ou pour nous laisser aller à des lâchetés ou à des retraits, ou à des refus d'engagement ou à des replis sur soi. C'est là où je moquais tout à l'heure un peu la nourriture allégée. Gare au manque de nourriture, attention à l'anorexie spirituelle. Veillons sur nous-mêmes. L'apôtre Pierre nous dit « Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ceux qui cherchent à vous entraîner et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. » Encore une expression à retenir. Attention pour ne pas perdre la position solide que vous occupez. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous serons dans la ligne de ce que le Seigneur veut pour nous, la marche de plus en plus assurée, la possibilité pour nous d'être nourris solidement par la parole du Seigneur, d'être fortifiés dans notre cœur et dans notre esprit, d'être encouragés les uns par les autres, afin que, ensemble et de mieux en mieux, nous gardions solidement la position en Christ où nous sommes établis par lui, par sa grâce, par son action, par tout ce qu'il fait pour nous, jour après jour. Oui, que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre l'affermissement dans lequel nous montrerons que nous sommes vraiment vivants par le Seigneur et pour le Seigneur. Le processus normal de la vie chrétienne, parce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et nous allons nous souvenir qu'il s'est donné lui-même pour notre salut et pour qu'une vie pleine nous habite tout au long de notre parcours. Notre privilège d'être fortifié par le Seigneur parce que nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout, chacun de nous, et ensemble. Affermissons-nous donc dans la foi, dans la parole de Dieu, dans l'espérance. Affermissons-nous par sa parole et par son esprit. Soyons vivants, pleinement, de la vie même du ressuscité. Amen. Pour nous préparer à partager le pain et le vin qui nous rappellent le sacrifice total du Seigneur Jésus qui s'est donné pour nous jusqu'à la mort pour que nous ayons la vie et la vie éternelle, nous allons chanter le cantique rédempteur du monde. Je rappelle juste cette parole de l'apôtre Paul. Vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Je crois que je pourrais paraphraser cette parole en disant, lui qui était le créateur de l'univers avec le Père, il s'est fait faible pour venir sur les chemins des hommes, afin que par sa faiblesse, nous soyons fortifiés. Chantons, Rédempteur du monde, Seigneur Jésus, nous t'adorons. Ainsi, puisque nous avons en Jésus le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre le péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de la grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Au moment où nous nous approchons de la sainte table à laquelle tu nous convies, Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus notre frère, nous venons nous prosterner et adorer. Merci, Père, de avoir donné Jésus ton Fils, ton bien-aimé. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir accepté de partager notre humaine condition et notre faiblesse, et d'être celui qui nous fortifie et qui nous secourt en tout temps et en toutes circonstances. Conscient de l'immense privilège qui est le nôtre, d'être les objets de ton amour, les objets de ta grâce, d'être aujourd'hui devant toi, dans ta maison, au bénéfice de ta parole, pouvant, dans l'humilité, mais dans une reconnaissance infinie, partager, parce que tu nous y invites, le pain et le vin de la communion à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Conscient, Seigneur, de la grâce infinie que tu nous fais, nous venons renouveler notre consécration à toi, notre don total, pour te suivre et te servir, pour t'aimer et te plaire en toutes choses. Seigneur, selon ta promesse, veuille continuer cette magnifique œuvre que tu as commencée en nous, pour la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Merci pour ce corps brisé, pour ce sang versé, pour ce salut infiniment précieux que tu nous as acquis. Seigneur Jésus, notre Sauveur. Amen. Le Seigneur Jésus prit du pain et le rompit en nous, disant à ses disciples, « Prenez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » À la fin du repas, le Seigneur prit la coupe et la bénit en disant, « Cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Buvez-en tous. » Ainsi donc, chaque fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons cette coupe, nous rappelons la mort du Seigneur et nous le ferons jusqu'à ce qu'il revienne. Je vous invite maintenant à chanter le cantique « T'aimer, Jésus, te connaître » qui est pour conclure ce culte, notre vœu et notre prière. Et pendant le chant de ce cantique, nous pourrons aussi, mais librement, apporter, si nous le souhaitons, nos offrandes. Chantons ensemble. Thank you. merci de prendre place encore quelques instants pour les informations et les annonces.